VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 13 septembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sédounia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Remaniement ministériel en République centrafricaine pendant que se poursuivent les violences à l'intérieur du pays.
Les ambassades des États-Unis en Guinée et en Érythrée mettent fin, à compter de ce mercredi, à la délivrance de certains visas.
En Ouganda, le mouvement de résistance nationale du président Yoweri Museveni veut annuler la limite d'âge frappant la fonction présidentielle.
Ici aux États-Unis, le bilan s'est alourdi hier en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Irma qui a fait 12 morts dans cet état.
Aung San Suu Kyi, leader de facto du gouvernement birman, a annulé son déplacement fin septembre pour l'Assemblée générale de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, au moins 25 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des heurts entre groupes armés. C'est ce qu'a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans son bilan hebdomadaire reçu par l'AFP. OCHA parle également d'une nouvelle vague de milliers de déplacés. Et alors que les violences se poursuivent à l'intérieur du pays, le président Faustin Touadéra a remanié hier soir son gouvernement, une équipe de 34 membres, dont 5 femmes. Sur place à Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Le président Faustin Archange Touadéra avait déjà annoncé le remaniement de son gouvernement en août dernier à l'occasion de la fête d'indépendance. De 21 membres depuis avril 2016, l'équipe compte désormais 34 ministres avec de nouveaux départements. 3 sorties seulement pour 16 nouveaux entrants. Saint-Pice Mathieu Sarandi maintient son fauteuil de chef du gouvernement. Marie-Noël Kouyara reprend les commandes du ministère de la Défense pour ce qu'elle avait déjà occupé de 2015 à 2016 pendant la transition politique. Elle succède à Joseph Yakété, beaucoup critiqué pour sa lenteur dans l'opérationnalisation de l'armée nationale. Gontran Djono Abba, ministre sous le régime Bozizé, puis Séléka, occupe le portefeuille du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Un gouvernement regroupant alliés du chef de l'État, groupes armés, partis politiques et sociétés civiles. Les femmes ont une faible représentativité, 5 seulement y ont fait leur entrée contre 3 dans l'ancien Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
Les ambassades des États-Unis en Guinée et en Érythrée mettent fin, à compter de ce mercredi, à la délivrance de certains visas. Il s'agit d'une mesure de rétorsion à la suite du refus de la Guinée et de l'Érythrée d'accepter leurs ressortissants expulsés des États-Unis. Les précisions de Lionel Gahima.
En Guinée, ce sont les officiels nationaux et les membres de leur famille qui sont désormais privés de visas américains de tourisme, d'affaires et d'études. Les Érythréens, dans leur ensemble, n'obtiendront plus de tels visas jusqu'à nouvel avis. Cette mesure est prise par le département d'État à la requête du ministère américain de la Sécurité intérieure contre tout pays refusant d'accepter ou retardant de manière déraisonnable le retour de ses ressortissants, explique dans un communiqué l'ambassade américaine à Conakry. L'Érythrée est une source majeure de migrants fuyant un système national de service militaire obligatoire que les Nations Unies et les groupes de défense des droits fondamentaux ont dénoncé à plusieurs reprises. La Sierra Leone et le Cambodge devraient aussi faire l'objet d'une suspension similaire de visa américain, mais les ambassades américaines dans ces deux pays n'en ont pas fait cas. Les autorités américaines avaient discuté de ces restrictions de visa le mois dernier. Le ministère de la Sécurité intérieure a dit avoir recommandé des mesures de rétorsion contre 4 pays récalcitrants sur 12. Les raisons spécifiques du choix de la Guinée, de l'Érythrée, de la Sierra Leone et du Cambodge n'ont pas été fournies.
En Ouganda, le mouvement de résistance nationale du président Yoweri Museveni a décidé mardi de déposer une proposition de loi qui annulerait la limite d'âge frappant la fonction présidentielle. Selon 2 parlementaires, cela pourrait permettre à M. Museveni de briguer un autre mandat. Les précisions de John Lyndon.
La constitution actuelle en Ouganda interdit à toute personne âgée de plus de 75 ans de se porter candidat à une élection présidentielle. Museveni, qui est âgé de 73 ans, dirige le pays depuis plus de 3 décennies. Les prochaines élections sont prévues en 2021. Riche en pétrole, l'Ouganda est un fidèle allié de l'Occident et reçoit une aide financière substantielle, notamment en partie parce que le pays envoie des troupes en Somalie dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. À son arrivée au pouvoir, Museveni était adulé. Il avait réussi à rétablir la stabilité dans le pays, après le règne de 2 dictateurs meurtriers largement connu pour la torture et les exécutions extrajudiciaires. Il avait aussi pu mettre fin à une insurrection brutale connue pour les mutilations des civils et des enlèvements d'enfants. Mais au fil des années, les critiques se sont accumulées. L'opposition politique est presque inexistante, la corruption s'est généralisée et le pays jouit d'une très mauvaise réputation en matière de respect des droits de l'homme. Dès l'avis de plusieurs observateurs internationaux, l'élection présidentielle de l'année dernière était tout sauf transparente. Pour l'heure, Yoweri Museveni ne s'est pas encore officiellement prononcé sur une possible candidature à la prochaine présidentielle.
Une expulsion qui passe mal, la présidence tunisienne a regretté hier l'expulsion de Tunis de Moulay Hicham, cousin du roi du Maroc Mohamed VI. Tunis ne donne pas les raisons de cette mesure vivement critiquée dans le pays, Bagassi Koura.
Oui, le prince marocain a été expulsé vendredi, le jour où il était arrivé à Tunis pour une conférence dans le cadre d'un forum organisé par l'université de Stanford aux États-Unis et consacré notamment à la transition en Tunisie. Saïda Garache, porte-parole de la présidence, a indiqué que, je cite, « l'expulsion a été effectuée selon des procédures administratives automatiques sans consultation des responsables, ce que nous regrettons », fin de citation. Aucune autre information sur les raisons de cette expulsion n'a cependant été donnée. L'expulsion de Moulay Hicham a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux et par les ONG, la considérant comme un retour aux anciennes pratiques du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali. Le Comité pour le respect des libertés et droits de l'homme en Tunisie parle de violation des droits de l'homme et de la liberté de circulation. Cousin germain de Mohamed VI, surnommé parfois le prince rouge, pour son regard critique sur la monarchie marocaine, Moulay Hicham vit ici aux États-Unis, où il est chercheur à l'université de Harvard et dirige une fondation en son nom.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le bilan s'est alourdi hier en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Irma qui a fait 12 morts dans cet État et ravagé plusieurs îles de la Caraïbe où il a été le plus destructeur, faisant près de 40 morts. Bâtiments effondrés, mobile homes écrasés et des tonnes de débris à perte de vue dans l'archipel des Keys en Floride. Irma a laissé derrière lui des dégâts considérables avec 85% des habitations totalement ou partiellement détruites. Certains habitants de la Floride ont cependant commencé à retourner chez eux, mais les officiels ne cachent pas que se remettre de cette catastrophe prendra beaucoup de temps. Le président Donald Trump envisage de se rendre demain en Floride avec son épouse Melania.
Aung San Suu Kyi, qui dirige de facto le gouvernement birman, a annulé son déplacement fin septembre pour l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé mercredi son porte-parole alors que le pays est pointé du doigt pour la crise des Rohingyas. Elle avait promis l'an passé à la tribune de l'ONU de soutenir les droits de la minorité musulmane des Rohingyas qui fuit le pays par centaines de milliers.
Et pour leur part, les ONG Human Rights Watch et Amnesty International disent regretter l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU face à cette crise en Birmanie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Human Rights Watch et Amnesty International réclament la fin des violences contre la minorité musulmane des Rohingyas. Louis Charbonneau de Human Rights Watch regrette que le Conseil de sécurité ne parle pas publiquement de ce qu'il qualifie de nettoyage ethnique de grande ampleur. Des milliers de Rohingyas continuent à affluer vers le Bangladesh, où plus de 370 000 sont arrivés depuis fin août. Traités comme des étrangers en Birmanie, pays à plus de 90% bouddhistes, les Rohingyas sont apatrides, même si certains vivent dans le pays depuis des générations. Cette nouvelle flambée de violence a commencé fin août avec des attaques de rebelles Rohingyas contre la police birmane. Cette dernière a répliqué par une répression. Bilan, plus de 400 morts, la plupart Rohingyas selon l'armée. L'ONU évoque plus de 1000. Le Royaume-Uni et la Suède sont à l'initiative d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce mercredi sur cette crise. En mars dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis sur pied une mission internationale indépendante pour enquêter sur des exactions commises contre les Rohingyas. La Birmanie n'a pas autorisé les experts à se rendre sur place.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
En Côte d'Ivoire, les autorités annoncent que l'exportation de la fibre et de la graine de coton sera désormais soumise à un agrément délivré par le Conseil du coton et de l'ANARCAD. La Direction générale des douanes indique dans une circulaire que les exportations par voie terrestre seront ainsi interdites au cours de la campagne de commercialisation qui démarre en novembre pour prendre fin en janvier-février prochain. La Banque mondiale demande au Cameroun de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire pour attirer davantage d'investissements privés. Les engagements financiers de l'institution au Cameroun ont atteint un volume record au cours de l'année fiscale 2017, soit plus de 700 millions de dollars, dont 325 millions alloués à la nouvelle Société nationale de transport de l'électricité. Le Zimbabwe de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison de pluie et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. D'après son président Robert Mugabe, le gouvernement, dit-il, s'attelle désormais à consolider ses bons résultats, dont une bonne récolte de maïs, en investissant notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau. Il s'agit d'une première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire très controversée qui a exproprié les fermiers blancs.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, l'Afrique du Sud accepte finalement de rejouer face au Sénégal, comme l'avait décidé la FIFA.
La première rencontre en novembre dernier, vous vous en souvenez, avait été marquée par un pénalty imaginaire sifflé après une main inexistante et une victoire 2-1 pour les Bafana Bafana. Depuis, l'arbitre a été suspendu à vie par la FIFA qui a demandé à rejouer ce match. Eh bien hier, la Fédération Sud-Africaine de Football a accepté de rejouer ce match. Dans un premier temps, l'Afrique du Sud n'avait pas exclu d'intenter un recours contre cette décision, mais elle s'y est finalement pliée. La décision de la FIFA arrange le Sénégal, actuellement troisième du groupe D, qualificatif pour ce mondial. Le Sénégal a un point du Cap-Vert et du Burkina Faso, alors qu'il reste deux journées à disputer. On rappelle Idrissa que seul le premier de chaque groupe décrochera son ticket pour le mondial 2018 en Russie. En revanche, les Bafana Bafana sont déjà derniers du groupe et une nouvelle défaite les éliminerait.
La phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG et le Barça démarrent fort.
Eh oui, le Paris Saint-Germain version Neymar et Mbappé qui a frappé fort hier à Glasgow pour l'emporter 5-0 face au Celtic. Neymar a marqué, Mbappé a marqué et Edinson Cavani a réussi un doublé pour le Paris Saint-Germain. Le principal adversaire du PSG dans le groupe B, le Bayern Munich, a fait le travail contre Anderlecht, jouant durant 80 minutes en supériorité numérique, une victoire 3-0. Autoritaire, Manchester United a réussi son retour en Ligue des Champions en dominant le FC Bâle 3-0. Mauvaise nouvelle en revanche pour les Red Devils, puisque Paul Pogba a dû sortir sur blessure. Manchester prend seul la tête du groupe A, alors que dans l'autre match, le CSKA Moscou a renversé le Benfica au stade de la Luz de Buzyn. Éliminé en quart de finale l'an passé par la Juventus, le Barça a logiquement dominé le champion d'Italie 3-0 au Camp Nou avec un doublé de Lionel Messi. Quant à l'Atlético Madrid, le club a été tenu en échec à Rome 0-0, ce qui laisse la voie libre à Chelsea, large vainqueur de Karabakh 6-0 pour prendre la place du groupe C. Dernier match, la victoire du Sporting Portugal sur la pelouse de l'Olympiakos du Pirée 3-2.
Et d'autres belles affiches aujourd'hui.
Dans le groupe tout à l'heure, à Anfield Road, Liverpool face au FC Séville, on rappelle Idrissa que les Reds ont été corrigés 5-0 ce week-end en championnat. Ils devront donc réagir. Manchester City, auteur de cette correction, se déplace ce mercredi chez le Feyenoord Rotterdam en pleine confiance dans le groupe F. Dans le groupe G, le champion de France en titre, Monaco, orphelin de Kylian Mbappé, vous le savez, parti au PSG, se rendra en Allemagne pour affronter Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le Real Madrid a la peine en championnat sans Cristiano Ronaldo, suspendu, comptera sur sa star portugaise pour dynamiter la défense de l'APOEL Nicosie.
Enfin, sport olympique, pas de suspense à Lima.
Et oui, la capitale du Pérou, le Comité international olympique, le CIO, annoncera tout à l'heure sa décision quant à l'attribution sans suspense des Jeux Olympiques d'été de 2024 pour Paris et 2028 pour Los Angeles. Il s'agira donc d'un vote symbolique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le franc CFA, à l'origine, franc des colonies françaises d'Afrique, a changé de nom plusieurs fois depuis sa création il y a plus de 70 ans. Après les indépendances, plusieurs chefs d'État africains ont tenté de rompre, sans succès ou très difficilement, avec la zone franc, cette monnaie qui regroupe 14 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est revenu au devant de l'actualité après sa remise en cause par beaucoup d'intellectuels africains. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Dakar.
Le débat est relancé depuis l'expulsion de Kémi Séba. Ce franco-béninois a osé brûler un billet de 5000 francs CFA sur une place publique de Dakar au Sénégal. L'économiste Mamadou Dansoro, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les travaux de Osonde Afana et d'autres dans les années 60-70. Dans ce débat, il faut laisser l'émotionnel de côté. Les pays de l'UEMOA ont le franc CFA en commun. Nous devons aller vers la monnaie unique. Est-ce que les pays de l'UEMOA vont sortir collectivement ou est-ce qu'ils vont partir individuellement?
Il y a des pays qui ont déjà tenté l'expérience et généralement ça n'a pas marché.
Pour moi, ce qui importe, c'est l'économie réelle. C'est vrai que quand on n'a pas sa monnaie, un élément essentiel de la politique économique. Si vous aviez la monnaie et que l'économie réelle n'est pas forte, qu'est-ce que vous allez faire? Supposons que pour une raison ou pour une autre, l'État doit, par exemple, satisfaire à certaines revendications salariales et autres. C'est pas compliqué, il fait pousser la planche à pied. Alors, est-ce que pour autant, l'accès au prix des biens de première nécessité sera au même niveau? Dans la plupart des cas, ça a conduit à l'inflation. Donc, il y aura ce problème. Je suis tout à fait contre la domination de la France, mais on est dans un processus où l'intégration est très avancée. Si chaque pays sort individuellement du franc CFA, de la zone franc, la Côte d'Ivoire sort, le Sénégal sort, etc. Comment ensuite on va reconstituer une monnaie unique face à un pays comme le Nigeria, par exemple?
Je préfère la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage, avait lancé Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée. Son pays sera étouffé économiquement. Le président Modibo Keïta du Mali lui avait emboîté le pas, mais sera victime d'un coup d'État. Et le Mali reviendra dans la zone franc en 1984. La Mauritanie, depuis plus de 40 ans, à sa propre monnaie. Abdourahmane Gaïdé est historien mauritanien à l'université de Dakar.
En 1973, la Mauritanie, au moment de l'apparition de l'Ouguiya, je me rappelle très bien que ça a été une grosse fête. Il y avait du nationalisme, a été accompagné par une nationalisation de toutes les entreprises les plus importantes du pays. Mais chemin faisant, nos discussions tournent autour de pourquoi la Mauritanie a choisi de dénommer sa monnaie Ouguiya en Hassaniya. Et pourquoi ne pas utiliser les langues des autres ethnies pour désigner la monnaie nationale? Ça réveille une forme de nationalisme, voire même au-delà de l'ethnicité. Je crois aussi qu'il y a un phénomène que les économistes mettent en avant, c'est celui de notre indépendance par rapport à l'ancienne métropole. Et si nous voyons d'ailleurs la mutation du nom CFA, qui était en franc des colonies, avant de devenir le franc des francophones. Mais est-ce que la réalité qui lie la monnaie à la monnaie occidentale a muté ou pas? Est-ce que nous le faisons aussi pour un pur nationalisme ou est-ce qu'il y a des répercussions réelles sur la vie des populations? Et est-ce que ceux qui défendent aussi notre sortie du franc CFA ont pris le temps de réfléchir avec le peuple? Est-ce que les populations africaines sont prêtes à changer de monnaie? Parce que ça ne doit pas seulement être un débat d'élite.
Et le débat est encore loin d'être terminé. Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burundi, enlèvement hier à Bujumbura de Léopold Abarugira, un cadre du parti d'opposition Union pour la paix et le développement. Sa famille accuse le pouvoir burundais et avertit que d'autres dirigeants de l'UPD avaient été enlevés et retrouvés morts dans le pays. Eddie Sango a joint le frère de l'opposant parfait Abarugira.
Il était avec sa femme, Vitonda Liberace. Il y avait trois hommes, avec un qui a porté un fusil. Alors, on l'a mis dans une voiture qui n'avait pas de plaque. C'était vraiment horrible. Comme ça se passe, on cherche toujours des gens pour aider. Mais jusqu'ici, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien comme information que nous possédons.
Est-ce que la famille a mené des recherches auprès des services de sécurité ou de la police pour savoir où est-ce qu'il est?
Je suis sûr que Liberace, sa femme, est en train de tout faire pour avoir les traces de cet enlèvement. Sinon, nous, comme nous sommes très loin, c'est juste pour dire à quiconque qui peut aider pour voir s'il y a quelque chose qui peut se passer dans le bon sens.
Vous dites qu'il a été enlevé par des hommes qui sont descendus d'un véhicule non immatriculé. Est-ce que vous soupçonnez le service de sécurité burundais?
Au pays, on n'a pas le droit de porter une arme. Les seuls qui ont le droit de porter les armes ou d'enlever les gens sont les services secrets. À mon sens, s'il y a des gens qui font du mal, alors c'est le travail de la police pour chercher. En fin de compte, c'est la police qui est le premier responsable de la sécurité du pays.
Votre frère Léopold Abarugira était un cadre du parti burundais d'opposition, l'Union pour la paix et le développement, UPD. Est-ce que vous pensez que son enlèvement est lié à son appartenance politique?
C'est lié à son appartenance politique parce que ces histoires d'enlèvement, de tuerie ou d'exaction extrajudiciaire, ça lui est arrivé même l'année passée où il est rentré à la maison et il y avait quelqu'un qui a porté un fusil contre lui. Heureusement, on pourrait dire que c'est Dieu qui l'a protégé. Il a appuyé sur la gâchette, la balle n'a pas sorti. Il a eu toujours peur de sa vie, même s'il ne voulait pas fuir le pays. Oui, je peux dire que ça a quelque chose à faire avec son appartenance politique.
Quelles sont en fait les relations que nourrit votre frère Léopold Abarugira avec l'homme d'affaires qui est transfuge du parti au pouvoir, Chavino Omungwegozo? Parce que certains pensent que son enlèvement serait lié à ses relations à cet homme d'affaires qui était un transfuge du parti au pouvoir.
Chavino Omungwegozo, c'est un homme politique. Il représente le parti UPD dans le SNARED. Il n'est pas au pays. Dans ses histoires de 2015, il a fui le pays. Dans certains moments, il y a eu une dissension entre les UPD. Il se pourrait que Omungwegozo a été chassé de l'UPD.
En 2015, les porte-parole et les présidents de l'UPD ont été assassinés. Est-ce que vous, de la famille, vous craignez pour l'essor de Léopold Abarugira, maintenant qu'il a été enlevé et qu'on ne sait pas où il est?
Justement, au parti UPD, il y a eu toujours des enlèvements et des enlèvements qui n'ont pas très bien terminé parce qu'on a toujours entendu la mort de ses dirigeants.
C'était Parfait Abarugira, frère de l'opposant Léopold Abarugira.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Nous vous le disions hier, l'Organisation internationale pour les migrations et l'UNICEF ont rendu public un rapport selon lequel trois quarts des enfants et des jeunes qui migrent pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée font face à des cas d'abus et d'exploitation. Jointe à Genève par John Linden, Florence Kim, porte-parole de l'OIM.
Elles sont victimes de la traite, peuvent faire l'objet d'exploitation dans des réseaux de prostitution. Et voilà, et bien évidemment, en arrivant de manière irrégulière, ces jeunes sont destinés à demeurer irréguliers et n'ont pas les mêmes armes pour pouvoir se défendre une fois qu'ils sont arrivés en Europe.
Est-ce que votre rapport a réussi à déterminer quelles sont les causes pour lesquelles ces jeunes quittent l'Afrique pour ce qui concerne le continent?
Bien évidemment que les causes de ces départs pour ces enfants sont bien évidemment les mêmes que celles qui motivent les un peu moins jeunes à partir notamment de l'Afrique de l'Ouest. On le voit bien évidemment, ce taux de chômage pour les jeunes qui est important, un désir aussi de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille ou d'un village entier. Tout ça motive ces jeunes à partir et il y a bien évidemment aussi l'entretien de ce rêve de l'Europe vue comme un Eldorado.
Alors, ces jeunes débarquent dans beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres. Est-ce que vous avez une idée de ce que les autorités sur place font pour essayer d'éviter ces abus?
Ce que l'on fait, nous, à l'Organisation internationale pour l'immigration, c'est ce que nous faisons une fois que ces personnes sont débarquées et arrivent dans les ports des pays que vous venez de mentionner. Ce qui est évident, c'est que, en partenariat avec les autorités gouvernementales locales, nous identifions les personnes les plus vulnérables, bien évidemment les jeunes, les enfants, mais aussi les femmes et d'autres personnes, et c'est ce que nous faisons. Donc ça, c'est notre priorité. Après, par la suite, ça dépend des politiques nationales.
Alors, ça fait des années que l'on parle de migrants et du drame des migrants. Qui est responsable de quoi et a-t-on une solution définitive à ce problème?
La Méditerranée, encore une fois, n'est pas qu'européenne et n'est pas européenne seulement. Ce que l'on voit, cette urgence migratoire pour le moment en Méditerranée nous démontre bien une chose, c'est que nous devons agir tous ensemble pour pouvoir identifier et trouver une solution. Et notre priorité est, encore une fois, de pouvoir faire en sorte que ces enfants n'aient plus à risquer leur vie en traversant la Méditerranée.
Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la crise politique au Togo, marquée par des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du parti au pouvoir. Les opposants dénoncent le projet de loi du gouvernement sur la modification de la constitution et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Que prévoit ce projet de révision constitutionnelle? Les dirigeants, tant de l'opposition que du gouvernement, doivent-ils privilégier le dialogue pour calmer les esprits? Quelle solution voyez-vous pour régler la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
En Guinée, les métiers de dessinateur et de caricaturiste sont exercés beaucoup plus par les hommes que par les femmes, considérés il y a plusieurs années dans le pays comme complexes ou encore réservés aux élites. Ces activités créent depuis peu un certain intérêt chez les filles. Même si le pays ne compte qu'une dessinatrice caricaturiste professionnelle, l'arrivée des filles dans ces métiers se fait remarquer, nous dit notre correspondant en Conakry, Zakaria Camara.
C'est dans son bureau qu'Adila Touba, journaliste et reporter, accepte de me parler de sa passion pour les dessins, une activité qu'elle exerce à ses heures perdues.
Quand, étant enfant, j'avais rien à faire, j'aimais bien dessiner, quoi. Je dessinais ce que je vois autour de moi et le dessin n'était pas tellement, à une certaine époque, développé chez nous.
Aïssa Touba Dé, la seule femme dessinatrice, caricaturiste, professionnelle en Guinée, une ambitieuse.
L'objectif, c'est d'être l'une des grandes BDistes du monde et aller, pourquoi pas, ne pas travailler au sein de l'équipe Walt Disney et me lancer aussi dans l'animation.
Et pourtant, Aïssa Touba n'a pas étudié les beaux-arts. La passion lui a presque tout facilité. Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice, actrice d'articles de presse, elle cherche à faire éditer sa première bande dessinée.
Voici ma bande dessinée, un scénario complet qui n'est pas d'abord édité, qu'on appelle Bédida, le fleuve interdit. C'est à peu près une histoire d'une orpheline qui vivait avec sa marâtre.
À Guinée, peu de filles s'intéressent au dessin et à la caricature. Leur point de vue diffère d'une à l'autre.
Je m'y intéresse, mais pas dans le cadre diffère moi-même. Mais seulement parce que je me dis que je n'ai pas cette inspiration. Au lieu de faire son temps à dessiner, c'est mieux plus à pas lire un journal au moins.
Elles ne sortiront pas. Elles ne veulent pas sortir de leur timidité. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent bien, mais elles ne s'intéressent pas. Elles disent que oui, ce terrain n'est pas fait pour moi.
Célèbre dessinateur caricaturiste guinéen, Youssouf Ben Barry, surnommé Oscar, est le président de Bouledank, une association qui organise chaque année un festival du même nom.
Au début, on était 5 membres, aucune fille. On a fait le premier concours de dessin et on a détecté la fille Baldé qui a gagné le premier prix en dessin. Et depuis lors, les filles se sont intéressées. Et chaque festival, il y a une vingtaine de filles qui se présentent pour les concours.
36 dessinateurs caricaturistes évoluent au sein de cette association, dont 8 filles, peu par rapport au potentiel féminin, mais important comparé à 0 filles il y a seulement quelques années. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.